Salut à tous. C'est lundi, vous êtes dans votre bistrot, bistrot vélo. On regarde tout de suite le menu, tiens. On prend pas de temps pour faire blablabla. Voici votre menu. On va attaquer avec une salade détox. Important, quand on a été un petit peu malade, de se laver, de manger des légumes. Piperade, et oui, début du tour du Pays Basque aujourd'hui sur les antennes d'Eurosport. On vous montrera les premières images. Et puis un 4x4 breton. En dessert, 4-4 ou 4-4, ça dépend. Notre invité qui a été malade, mais qui va mieux, c'est Valentin Madouas. Bonjour Valentin.
Salut.
Comment ça va déjà? Objectif de l'année, hier le ronde, et puis tu es malade depuis 3-4 jours.
Non, c'est sûr, là ça va mieux depuis 2 jours déjà. Le jour du ronde, ça allait déjà mieux, mais j'ai passé 3 nuits, on va dire, compliquées juste avant, et ça m'a vidé de toute énergie. J'ai quand même voulu tenter le coup parce que c'est le ronde et j'étais présent et je sentais une amélioration. Mais j'ai vite vu que de toute façon, sur une course World Tour, il faut être à 100% et sur le ronde encore plus.
On va reparler de ce ronde, on va regarder un petit peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, ton pédigré, ton palmarès qui s'étoffe. Valentin Madouas, un coureur cycliste, bien sûr, de 26 ans, qui est ingénieur également, ça aussi, on va en reparler. Études d'ingénieur réalisées à Brest, ingénieur en électronique. Le palmarès, il est important. Champion de France de poursuite et de l'américaine. Il a commencé sur la piste, il a remporté Paris-Bourges en 2018, 2 étapes du Tour du Luxembourg, 11e du classement général du Tour de France. On aurait pu rapprocher également mettre ton podium sur le Ronde 2 Van Vlaanderen l'année dernière. Tu as suivi ce ronde, j'imagine, compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé après? Tu es rentré au bus, tu as regardé tout de suite direction Brest?
Non, je suis rentré au bus. Je suis rentré en vélo tranquillement. J'ai coupé tout droit et je suis arrivé malheureusement sur la grosse chute à ce moment-là, pile. Et moi, ouais, j'ai vu. Puis après, j'ai suivi, j'ai pris ma douche, je me suis bien habillé, reposé. Et puis. J'ai regardé les 100 derniers kilomètres de la course, un peu plus même. Et je suis reparti sur l'île, j'ai dormi avec ma famille. Et puis j'ai fait le voyage tout à l'heure, je suis rentré juste il y a quelques heures, donc ça a fait du bien.
Ça a fait du bien. Tadej Pogačar qui remporte ce ronde de Van Vlaanderen en solitaire. Tu étais sur le Grand Prix E3, lui aussi, il avait compris, quoi qu'il arrive, qu'il fallait qu'il distance Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert. Ça a été une course palpitante, brutale même, avec toutes ces chutes. Tu en pensais quoi de cette 107e édition du Tour des Flandres?
Ah, c'est sûr, c'est une des éditions qui restera vraiment gravée. J'en ai parlé beaucoup avec les coureurs présents, justement. Ils m'ont dit que c'était presque la course la plus dangereuse pour eux, parce qu'il y a toutes les chutes qu'on a vues à la télé, mais il paraît qu'il y en a eu des énormes aussi qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas laissé passer. Et je pense que c'était... Eux, ils ont trouvé ça vraiment incroyable. Et après, ça reste un tour des Flandres. Les coureurs sont au départ le couteau entre les dents pour gagner la course ou pour faire le meilleur travail possible. Et voilà, moi, j'ai trouvé l'édition assez remarquable, c'est clair.
Tu aimes ces courses. Qu'est-ce qui t'attire dans ces courses? Je disais brutal, mais il y a de ça. Hein. Un ronde 2, après 250 km, avec tout ce stress, les placements, avec... nous on le vit pas, mais il y a une espèce de chose bestiale dans le peloton.
Ah non, ça c'est clair, et c'est surtout je trouve cet aspect, c'est ces courses qui se lancent de loin, ces courses difficiles, ces courses de guerriers quoi. Dès qu'on est au départ de ces courses dans le bus, c'est jamais la même ambiance, tout le monde est un peu plus tendu parce qu'on sait que c'est le départ du Tour des Flandres, que c'est le départ de la course que beaucoup attendent. Et justement, après 250 km, tout le monde est fatigué. Ça a lancé la course 100 km avant. C'est peut-être la course qui se lance le plus loin. Donc, c'est des courses qui sont hyper longues et hyper difficiles. Moi, elles me conviennent bien pour ça.
Il y a déjà pas mal de questions. N'hésitez pas. Il y a Fred qui est arrivé. Il y a Anne-Laure qui regarde. Tiens, il y a Clem qui a une question. Il revient sur les tactiques. Il y a un top 10 encore pour King Kung. Il nous dit si Stephen Kung suit l'attaque de Mats Pedersen, à ton avis, est-ce qu'ils peuvent collaborer tous les deux et jouer la gagne? C'est cycliste participation.
Ouais, mais c'est difficile à dire. Après, nous, clairement, on voulait faire. Au briefing initial, on voulait faire forcément anticiper Stéphane pour qu'il puisse justement avoir ce coup d'avance et qu'il puisse vraiment résister le plus longtemps possible aux trois fantastiques, comme on les appelle. Après, de là à suivre Mats Pedersen, c'est toujours difficile à dire. Je pense que la stratégie, elle est compliquée. Ils sont 8 ou 9 coureurs derrière. S'ils s'entendent et ce qui rentre, ça peut être une cartouche de prise pour rien. Donc, c'est vraiment difficile à juger dans ces moments-là, la course, parce que il se passe tellement de choses et on a notre stratégie en tête des fois où on sent la course différemment de ce qu'elle se passe et peut-être qu'on aurait pu chercher la victoire, mais je pense que c'était quand même impossible.
On te voit sur Paris-Roubaix, c'est pas prévu ça, si?
Non, non,
Non?
non, je fais pas Paris-Roubaix. Là, je préfère bien récupérer quand même parce que j'ai quand même enchaîné pas mal de maladies cette année. Et là, il est temps de bien se recentrer sur soi-même, bien récupérer. Et puis, si je vais bien, je vais faire un check dans 2-3 jours. Peut-être que je serai au départ d'une Coupe de France et avant d'enchaîner sur les Ardennaises et faire une vraie coupure pour la prépa tour.
C'est très sage. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui t'a donné un petit conseil hier pendant la course. On écoute ça. C'était Philippe Gilbert qui était sur la moto d'Eurosport.
C'est un mauvais passage, t'es malade, mais pense aux Ardennaises, tu vas le faire là. Hein? Ça va droit de plus fort.
Il y a 2 semaines, c'est clair.
Vas-y.
Merci, à bonne course.
Une histoire d'ancien de la FDJ. Il y a un côté famille également. J'imagine qu'il a fait partie de tes héros. On est en train de revenir. Il y a plein de gens qui parlent, Florian, de la fabuleuse tactique des DSM dans le Kortekir. Ça, tu l'as suivi. Tu en penses quoi? Ça a beaucoup fait parler. C'est la tactique Yvette Horner, on pourrait appeler ça. La tactique de l'accordéon. Là, on est dans des pentes presque 20% et on roule à 3 km/h. Derrière, on fait tomber et on accélère après. Tu en penses quoi? Tiens, la vie dans un coursier.
Non, mais j'ai écouté même vos commentaires pendant la course. C'est clair que ça fait partie des courses en Belgique de pouvoir ralentir dans les monts et accélérer sur le haut. Ça fait partie de ces courses-là. On a cette chance. C'est tellement difficile d'être placé au pied des monts. On voit, il y a 5 coureurs qui peuvent être en première ligne. Donc, dès qu'on a la chance de pouvoir y être, il faut réussir à trouver un moment pour en profiter. Après, il y a ralentir et accélérer et à faire du sur place et mettre une attaque. C'est complètement différent. C'est même presque pas autorisé. Et je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui étaient contre ça. J'en ai parlé justement à nos coureurs qui étaient juste placés derrière. Ils disaient, mais c'était horrible, on faisait du sur place, on était à 2 doigts de toucher la route devant. Et voilà, il y a des. Faut savoir respecter les autres coureurs du peloton aussi. Et même si, forcément, dès qu'on est placé, on est sur un Tour des Flandres, il y a pas de respect à avoir dans les moments, mais on est tous des coureurs cyclistes. Et si c'était eux derrière, je pense qu'ils n'auraient pas trop apprécié le moment qui s'est passé, qui s'est clair sur ce Tour des Flandres.
Il n'y a rien qui l'interdit dans, on va dire, le règlement, mais effectivement,
Non.
si on applique ça, on met en danger l'autre. Et ça, par contre, on peut trouver dans le règlement. Est-ce qu'ils avaient l'intention de faire tomber et donc de mettre en danger? Je pense pas que ça soit le cas, mais effectivement, ils étaient un petit peu lents là. On était presque sur de la piste, quoi.
Non, mais on a vu sur le Grand Prix 3 que Trek Segafredo avait tenté ça et ça avait marché. C'est que il y a eu des accrochages derrière, forcément, dès qu'on ralentit sur des monts qui sont aussi difficiles. Surtout un petit peu glissant, il suffit juste de toucher la roue ou d'avancer, hein. Voilà, de freiner au mauvais moment et derrière ça peut rentrer dedans. Et c'est toutes ces petites choses-là qui font que ça fait partie des courses en Belgique. Trek l'a bien fait, ils sont mis en file, ils ont bien accéléré. Là, en plus, en parlant avec les coureurs, ils m'ont dit juste après, il y avait gros vent de face, donc il n'y a même pas d'intérêt à le faire, à part casser le peloton et embêter tout le
J'ai
monde.
l'impression que c'est de la formation. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est super jeune. Hein. Hier, il y avait peut-être Ekhoff, et puis derrière John de Gelkop, les autres sont des gamins. Ils ont 20 ans, 21 ans. J'ai l'impression que c'était un exercice grandeur nature. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils se sont un petit peu ratés. C'est Ekhoff d'ailleurs qui relance derrière.
Non, mais c'est clair, je pense que c'est un exercice. Après, c'est très intéressant. Nous, ce Grand Prix 3, c'est clair qu'on aurait voulu tenter le coup qu'ils ont fait, mais pas à l'extrême comme ils l'ont fait. Il faut savoir respecter les coureurs entre rouler doucement et faire du sur place. Il y a une grosse différence.
Alors, bon, la saison des Flandriennes est terminée pour toi. On se rappelle de ce fameux sprint de l'année dernière avec Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar, déjà qui jouent la gagne. D'ailleurs, Tadej Pogacar est rentré dans l'histoire hein, ce jour-là. Il part pour un sprint à deux et il fait quatre. Tu en gardes quoi de ce moment-là? C'est peut-être le plus intense. Tu as eu des victoires, mais celui-là, peut-être le plus intense de ta carrière.
Ouais, c'est le plus inattendu, on va dire. Dans la tête, j'étais préparé pour le podium, sachant qu'ils étaient deux devant et on était deux derrière. C'était plus un combat pour le podium. Je ne m'attendais pas à les jouer la gagne du tout. Et le fait de rentrer sur eux, ouais, on tente le tout pour le tout. On essaie de faire l'effort. Bah, voilà, quand ils sont sur place, on se dit pourquoi pas. On n'a même pas le temps de réfléchir que ça se passe. Après, c'est vraiment la sensation de l'inconscient qui se passe à ce moment-là. Après la ligne d'arrivée, c'est clair que c'est une décharge parce que c'est le Tour des Flandres. On a été tellement concentré, ça a été tellement une dépense mentale tellement forte pendant 6 heures, 6h30 que oh, ça tombe d'un coup. C'est assez impressionnant. Après, voilà, on a envie de revivre ces moments-là et d'être sur la première marche du podium, ça c'est clair.
Et l'adrénaline est particulière, tu dis 6h30, mais on est concentré, j'imagine. À quel moment tu te mets dans ta bulle? Toi, c'est tu arrives à te défaire de la pression de la course juste au moment du départ ou déjà la veille, au soir, Valentin, il change, il devient le Valentin le méchant.
Non, c'est assez compliqué parce que pendant toute cette prépa classique, on sent l'atmosphère qui monte, qui monte, qui monte, même sur les reconnaissances, on passe toujours au même endroit, on refait les mêmes recos, mais on voit justement les tentes qui se montent, on voit le public qui commence à arriver, on voit bah, les spectateurs qui arrivent, ça commence à parler du round, ça commence à parler des favoris, sur les réseaux sociaux c'est pareil, ça parle du round. Donc on sent l'atmosphère qui monte. Après, l'objectif, c'est de s'en détacher au max. Nous, c'était assez marrant et je pense que c'est top. On était dans un hôtel pendant toute la campagne et juste à 2 jours du round, on a changé d'hôtel, on s'est rapproché de Bruges et ça a mis direct, hop, on est sur une autre course, on est sur le gros objectif de la saison des classiques. Et là, ça a mis directement dedans. Après, cette année, pour moi, c'était compliqué. J'étais plus en mode essayer de survivre. Je pensais pas du tout à la course. J'étais plus remets-toi bien, essaye de manger, essaye de boire. Essaye de dormir et j'étais pas du tout dans le mode ronde. Et après, voilà, j'essaie. Moi, ça, la pression, elle m'atteint pas là-dessus. Je suis concentré sur la course. C'est l'adrénaline et c'est
C'est
cette atmosphère
positif. Toi, c'est quelque
particulière.
chose qui
Ouais,
te nourrit en fait.
ça me nourrit. Et puis, bah, dès qu'on est au départ, ouais, c'est l'explosion. Et puis ensuite, on est concentré pendant 100 bornes jusqu'au premier quart-mont. Et après, bah, on sent l'ambiance Tour de France, l'ambiance classique belge, qui est un peu similaire dans ces moments et la course, elle est lancée, ça, c'est sûr.
Il y a eu cette gastro, il y a eu aussi des épisodes allergiques. Mais quand même, entre tout ça, il y a eu une deuxième place sur Strade Bianche aussi, qui te met encore dans cette position de coureur de classique, mais coureur de classique tout terrain. Strade Bianche, ça n'a quand même rien à voir avec le Rondeveen Van Vendoren, à part des routes compliquées. Mais ça fait plaisir de te voir jouer avec des garçons qui sont capables de gagner les Stradés sur les Flandriennes et bientôt sur les Ardennaises. Il va jusqu'où le registre de Valentin Madouas?
Je sais pas où il va, je veux pas me mettre de limite. En tout cas, je veux pas être un coureur comme un autre coureur. Je veux être mon coureur, enfin le coureur que je suis vraiment. Et je me concentre sur chaque course du jour au lendemain. Après, c'est clair que cette année, c'est des hauts et des très bas. J'enchaîne vraiment les maladies. Dès que je marche bien, boum, j'ai un gros coup de moins bien. Après, je pense que voilà, c'est des choses à mettre en place. C'est peut-être des fautes de ma part aussi. Et voilà, après, on va tout recaler, essayer de pouvoir être bien plus régulier comme j'ai pu l'être les dernières saisons. J'ai quasiment jamais été malade, j'ai quasiment eu très peu de coups de moins bien comme ça. Mais l'avantage, c'est que je sais que je suis en forme, c'est que je sais qu'à 100%, je peux être avec les meilleurs dans ces courses. Et j'ai juste à régler quelques petits problèmes pour pouvoir être encore plus performant sur les prochains objectifs.
T'as du monde pour t'aider à régler ces problèmes. Maman, notamment. Je pense que c'est la première interlocutrice dans ce qu'il s'agit de santé, parce qu'elle est médecin, mais elle est surtout maman. Et elle a toujours été très précautionneuse. Mariée, on en reparlera, tout le monde le sait, avec un cycliste professionnel. Je sais qu'elle suit ça de très très près avec la rigueur d'une maman, justement.
Non, ça c'est sûr. Ah, c'est mon premier point d'appui quand ça va pas comme ça. On essaie de trouver des solutions, on essaie de trouver où est le problème surtout, parce que là, par exemple, après mercredi, je savais que ça allait pas, mais je ne savais pas pourquoi ça allait pas. Et c'est là, avant de soigner quelque chose, il faut savoir comprendre d'où ça vient, quelle faute a été faite ou pas, ou si c'est une maladie, un virus. Et après, c'est la première interlocutrice pour moi parce que c'est ma maman. Après, forcément, il y a les médecins d'équipe qui rentrent en compte et c'est eux qui vont me faire les traitements si je suis vraiment malade. Et voilà, après, moi, ma mère est là, ouais, en soutien moral, mental dans tous ces moments-là parce que c'est quelqu'un qui a d'expérience et qui sait comment gérer un coureur.
Ouais, c'est ça, exactement ça. Tiens, il y a quelqu'un qui a de l'expérience également, mais lui, à côté de toi, c'est Olivier Legacq. Tu connais le principe de l'émission, les petites questions, c'est le moment. Tiens, je
Bien
te
sûr.
l'envoie. Tac, pim, tu vas recevoir. Tu la regardes sur ton portable. Nous, on l'écoute et tu réponds.
Salut Val, pour toi, une journée de repos idéale, c'est quoi? Un parcours de golf? Une sortie en bateau? Ou une sortie en vélo avec une petite pause café au soleil? Allez, à la prochaine, ciao ciao.
Ah, très bonne question.
Golf, bateau, vélo.
Assez compliqué. Les trois, ça dépend des conditions climatiques et météorologiques, parce qu'ici, on a cette chance qu'il fait tout le temps beau. Non, je rigole. Non, quand il fait beau, et ce que je préfère, c'est aller rouler en Cuistarco Mayoko, donc à partir de maintenant. Ce que je préfère, c'est aller faire...
L'été en Bretagne, 15 juillet, 15 août.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Faut aller faire, faut aller... Moi, ce que j'adore, c'est d'aller faire un tour en vélo et de faire une petite pause café, boulangerie, justement, avec Olivier. On a nos coins favoris. Et on le fait souvent aussi avec Léo Danès, un coureur aussi qui est pro à Nantes. Et on fait souvent notre petit tour ensemble. Après, le bateau, moi, c'est que quand il fait beau et que l'eau est assez chaude, parce que... Je suis un ancien nageur, mais l'eau froide de la mer Bretonne, c'est compliqué.
C'est normal, t'as appris à nager très très loin ailleurs, avec les ça, copains de papa, quand on partait en vacances, au soleil, l'hiver. Et le golf, quand il fait mauvais?
Non, mais le golf, je m'y suis mis, ça fait un an et demi. Là, j'y suis allé cet hiver, justement, quand il fait moins beau, parce que c'est quelque chose qui me permet de sortir dehors, même quand il fait plus froid. Après, voilà, faut vraiment être bien couvert et ça permet vraiment de se changer les idées. J'ai besoin de ça parce que rester à la maison, c'est ce que je supporte pas.
C'est ton rapport au vélo, c'est ça? Le vélo, un tonton de cœur, c'est Jackie Durand. Hein, tu le connais très très bien, Jackie. Jackie, je sais que lui, le vélo, c'était pour aller plus loin que l'horizon, en fait. Ouais, il y a ce côté-là chez Valentin?
Ah, carrément. Le vélo, c'est réfléchir à sa vie, c'est réfléchir à soi-même, c'est réfléchir à ce qu'on doit faire en rentrant. Et se concentrer après sur les exos et sur ce qu'on doit faire, mais c'est une prise de conscience personnelle sur notre vie, sur la personne qu'on est vraiment. Et moi, ça me libère beaucoup de choses.
J'ai les poils qui montent là. Je suis tellement d'accord avec toi. Tu dois bien aimer aussi Guillaume Martin, qui pense aussi que, voilà, philosophiquement, l'homme, c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des philosophes, hein, pense mieux en marchant, marcher ou rouler, c'est pareil. Puisqu'on est dans la philosophie, on va faire le questionnaire bistro vélo de Valentin Madois. Tu vas voir, ça fait pas mal.
Allez.
Valentin, ton meilleur pote dans le peloton?
Ouais, c'est compliqué, j'en ai plusieurs, mais bah, là, dans le peloton, actuellement, c'est Léo Danès, surtout, qui habite à côté de chez moi et avec qui je m'entraîne tout le temps. Après, voilà, il y a des vrais amis comme Olivier ou David Godieu, avec qui je partage beaucoup de choses. Et après, avec Thibaut également, c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de choses et beaucoup de valeurs. Donc, c'est des personnes très importantes.
Tu aimes le foot comme Thibaut?
J'aime le foot. Après, je suis pas partie des ultras. Je suis pas.
Ouais, t'es pas comme un ultra comme Thibaut.
Je suis pas un vrai ultra, mais j'ai cette chance de pouvoir avoir un club de Ligue 1 pour l'instant.
Lorient donc. Le pour l'instant, ouais, c'est Lorient. Je sens ça. Non, c'est qui?
Bah non, c'est Brest. C'est Brest.
Ah oui, pardon. Qui a fait un super match hier. Spécialiste des coups de pied arrêtés. Que des coups de pied arrêtés. Trois buts sur coups de pied arrêtés. Magnifique.
C'est ça, c'est spécialiste, mais du coup, voilà, j'adore le foot. Quand j'ai la possibilité, j'essaye d'aller voir les matchs. Après, voilà, c'est toujours compliqué. Même à l'hôtel, des fois, je regarde à la télé, c'est important pour moi.
L'une des belles ambiances, d'ailleurs, Brest, au niveau des stades. Ton meilleur souvenir sur le vélo?
Meilleur souvenir, pour l'instant, je dirais, c'est vraiment compliqué, mais je dirais mon titre de champion de France amateur. Parce que ça a été une consécration vraiment très très forte. Un titre de champion de France, je suis très attaché à ce maillot. Marc Maggio est le premier à en parler, mais avant de le connaître, c'était aussi quelque chose qui était assez incroyable. Quand on est enfant, on regarde quoi? Le champion de France, le coureur qui a ce maillot, qui est complètement différent des autres. Et ce premier titre, il a été important pour moi, et je pense que c'est une de mes plus belles victoires. Après, chez les pros, c'est encore des émotions différentes, plus fortes. Mais un titre de champion de France, c'est quand même différent.
Ton premier coup de pédale, Valentin Madouas?
À Guy Maurice, peut-être? Non, je rigole. Non. Mon premier coup de pédale, moi, il y a toujours des photos, justement, chez mes parents. C'était dans leur ancienne maison, sur la terrasse. Il y a plein de photos. J'ai peut-être 2 ans. Je pense que j'avais presque... faire du vélo avant de marcher.
Oui,
8 sur un
Logique.
vélo et c'est quelque chose ouais, que j'ai fait vraiment beaucoup plus jeune que les autres.
Ton idole de jeunesse?
C'est une bonne question. Il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question sur l'idole. Est-ce que tu as eu un idole dans le vélo? J'ai pas forcément eu d'idole parce que le fait d'avoir sûrement
Ton
un
père, ton
père
idole. Mon
et
père, ce héros.
mon père sur le vélo, peut-être oui, sûrement ça a été un idole. En tout cas, c'est lui qui m'a donné sûrement envie de faire ce sport parce que bah, j'ai vu ce que c'était d'être coureur cycliste professionnel de l'intérieur dès ma naissance. Et je pense que c'est ça qui m'a accroché. Après, j'ai jamais réussi à m'attacher à un coureur particulier parce que j'avais l'impression d'avoir déjà vécu ça très très jeune, quoi.
Après, j'ai dit ton idole de jeunesse, hein. J'ai pas parlé de vélo. Ça aurait pu être.
Ouais, mais même,
Non.
ouais, j'ai pas forcément d'idole précise sur un domaine particulier.
Soit toi, les autres, c'est déjà pris, de toutes les
C'est
façons.
ça.
Ton pire souvenir dans le vélo?
Mon pire souvenir, je dirais ma fracture de la mâchoire à Drôme. C'était vraiment pas marrant.
Bah, je crois qu'on a fini. Juste me rallumer la télé, monsieur Sébastien Petit, parce que je vais perdre notre invité dans quelques instants. Alors, ça va être compliqué. Comment on fait? T'as 48 secondes pour l'éteindre ou la rallumer, je ne sais pas. Et en même temps, on va passer dans quelques instants à la rubrique suivante, la rubrique Bistro News. On va aller très vite. On va regarder la première étape du Tour du Pays Basque avec la victoire de Ethan Hector. C'était il y a quelques minutes. Ça s'est joué au sprint. Il n'y avait pas Arnaud Démare, hein, vous n'aviez pas de sprinter. Ethan Hector qui offre une 9e victoire cette année à l'équipe Ineos Grenadiers. Et on a vu surtout bah, dans le final une Groupama FDJ en train de protéger un autre Breton. Tu le connais bien. C'est David Godu. David Godu qui a pour objectif, bien sûr, de faire le classement général. Ça s'est bien passé pour David aujourd'hui. Pas de chute. On voit ce collectif-là réuni. Il a passé un cap, David. Depuis ce podium à Paris-Nice il y a quelques jours maintenant, toi qui le connais bien.
Je pense qu'il a passé un cap surtout depuis le Tour de France, pas depuis Paris-Nice. Le Tour de France était un vrai déclic pour lui. Il attendait cette course de référence sur une course par étape. Et il avait tellement d'attentes envers ça que je pense que ça a été un vrai déclic pour lui. Il a trouvé sa manière de courir, il a l'expérience, voilà, il arrive à 26 ans, 27 ans, et c'est l'âge où il commence à se connaître aussi, sa manière de courir. Et il est très serein et il sait très bien ce qu'il fait. Hein.
On va l'écouter. C'était ce matin au micro d'Eurosport. Il nous parle de ses objectifs, bien sûr, sur les classements généraux et déjà pour commencer sur le tour du Pays Basque.
Forcément, le classement général, il n'y a plus une course. Généralement, avant, on prenait Pays Basque pour préparer les Ardennaises. Maintenant, Pays Basque, on y vient aussi pour performer. Donc, forcément, quand on a fait un podium à Paris-Nice, on a envie de rééditer la même chose sur une autre course World Tour. Donc, voilà, on peut pas se le cacher qu'on va essayer de venir encore pour jouer le podium. Et même si le parcours s'annonce pas forcément le plus dur des dernières éditions, ça reste un très beau parcours. Et je pense que ça va être une édition qui risque d'être très difficile.
Vous avez une relation particulière avec David. C'est une relation qui s'est forgée dans l'adversité, finalement. Cadet, quelle école de vélo, les premières courses en Bretagne, c'était une fois Madouas, une fois Godu. Vous étiez rivaux, en
Ouais.
fait.
Ouais, ça c'est sûr. Bah, le fait qu'on ait le même âge et en Bretagne, il y a tellement de courses, on va dire, dans la région que on avait souvent un course même dans notre département. Donc on était souvent l'un contre l'autre. Et c'est clair, c'était soit lui, soit moi pendant quelques années, une catégorie très très jeune en école de cyclisme. Moi j'ai commencé à faire du vélo vraiment à partir de minime 2, où là je me suis mis à 100% dans le vélo. Mais avant, je faisais surtout des courses que l'été parce que je faisais d'autres sports et je m'amusais à faire autre chose. Mais pendant toute cette période-là où je courais l'été, c'était souvent lui ou moi. Et c'était clair, une petite adversité, même si à cette période-là, c'était plutôt, voilà, on faisait du vélo contre quelqu'un et on essayait de le battre. Ce n'était pas forcément adversaire, c'était essayer de gagner surtout.
Le niveau est très fort en ce moment, mais je vais te poser la question qui tue. Tu le connais bien, il peut gagner le tour?
Bien sûr qu'il peut gagner le tour, ça c'est sûr. Moi j'y crois. Après, c'est compliqué, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des gros adversaires et ça ne dépendra pas que de lui, ça dépend aussi des autres. Mais il faut y croire. Hein. On va partir au tour cette année pour ça, en tout cas, pour essayer de faire mieux que l'année dernière. Et on ne sait pas ce qui peut se passer sur un Tour de France. Ça dure 3 semaines et on n'est jamais à l'abri d'une chute ou malheureusement d'une maladie d'un des leaders qui sera peut-être plus fort que lui, quoi.
Demande à Thibaut,
Voilà.
2014. Je dis ça, je dis rien. Froome, Contador, Bon, bref. Le mondomètre, tiens, on l'a actualisé avec une victoire supplémentaire pour cette équipe Ineos, Ethan Hayter, donc qui remporte la première étape du Tour du Pays Basque. Et puis le Françomètre, avec pour l'instant peu de victoires, mais des victoires qui comptent pour la FDJ. Et puis beaucoup aussi de deuxième place. On pourrait rajouter les bons résultats de l'équipe Conti, parce que c'est ça aussi la force de la FDJ. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. On a déjà fait 28 minutes. On va te prendre un petit peu de temps. Dernière partie, on l'a appelé Valentin le petit Madous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'appellent le petit Madous dans le peloton, les anciens, les copains de papa. Il faut le rappeler. Papa, ancien coureur, il a une carrière magnifique, grimpeur, notamment podium sur le championnat de France. Tiens, peut-être qu'un jour tu le porteras, ce maillot. Une étape également sur le Dauphiné. Tu es très proche de ton père, tu l'as dit. Qu'est-ce que ça fait d'avoir comme ça cet exemple? Est-ce qu'il te fait chier, par exemple, papa, toujours refaire la course, ou c'est plutôt le bon pote?
Non, il fait chier, forcément, c'est un père. Il est là pour embêter tout le monde, ça c'est sûr. Non, il est là, après, il dit tout le temps son avis, mais il dit son avis de père. Après, je commence à avoir cette expérience aussi, lui il a la sienne, moi j'ai la mienne. On échange, c'est des vrais débats des fois parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Je sais faire la part des choses, j'écoute pas que mon père, et heureusement, mais je reste voilà, j'écoute son avis, c'est des débats et c'est forcément important parce que ça me permet de réfléchir peut-être à des choses que j'avais pas pensé, et le fait d'avoir quelqu'un qui connaît si bien le vélo aussi à la maison, il sait comment me parler, il sait quoi dire aussi pour peut-être me faire réfléchir. Et ça permet d'avancer plus vite, surtout.
Et dans les moments de donne, quand ça ne va pas, j'imagine, parce qu'il y a plus de moments mauvais, d'ailleurs, dans une carrière de cycliste que de moments de victoire. Lui, il relative les choses, j'imagine.
Ouais, mais bien sûr, ça ne va pas que dans le mauvais sens. Ça va aussi dans le bon sens, derrière. Non, c'est que c'est un vrai point d'appui, parce que c'est avec lui, souvent, quasiment chaque semaine, que je fais mes sorties derrière scooter, que voilà, il m'aide. Et puis justement, on échange beaucoup sur le niveau, sur les sorties, sur l'entraînement. Il aime beaucoup ça, donc c'est des échanges constructifs et positifs là-dessus. Et quand je gagne, il sait dire que c'est très bien et on est très heureux. Et quand ça ne va pas, bah, il va essayer de trouver aussi les solutions pour que ça aille mieux et m'aider à aller encore plus fort et encore plus loin.
Qu'est-ce que les copains de papa, on a parlé de Jackie, toute la bande de cette génération-là, tu les as tous connus gamins en fait. Quand tu regardais le Tour de France, c'était après en novembre, vous partiez en vacances, hein, c'était la tradition à l'époque, ça se fait moins maintenant. Les coureurs partaient beaucoup ensemble. J'étais invité hein, la plupart du temps dans des beaux hôtels, on faisait la tournée, on faisait la réunion, on faisait une petite course, hein, un petit critos, ensuite on partait à Maurice et on restait 15 jours au soleil. Quand tu les revois là, les anciens, à chaque fois, j'imagine qu'il y a une relation un petit peu particulière. Ça fait quoi d'être le petit chouchou là des anciens?
Non, je sais pas si je suis le chouchou, mais je pense que pour eux ça fait plus bizarre que pour moi, parce que moi c'est les personnes que j'ai toujours connues un peu. C'était des idoles, c'était des personnes que je suivais forcément, parce que c'est des coureurs que qui m'ont permis de me forger aussi, que j'ai toujours observé, qui m'ont fait grandir. Et après, c'est plutôt eux, le fait de se dire le petit là, qui était là dans la piscine avec moi, je m'occupais, qui avait toujours ses brassards, il est là en train de faire le Tour des Flandres ou le Tour de France, ça doit leur faire bizarre. Moi, ça me fait toujours plaisir, parce que c'est des personnes que je respecte beaucoup par leur carrière, par leur expérience aussi. Et c'est peut-être aussi un mélange de tout ça, de toutes ces personnes qui m'ont donné aussi envie de faire ce sport. Donc,
Il y avait cette ambiance de copains à l'époque. C'est presque des frères. Oui. Moi, je sais que voilà, quand Jackie parle de ton père, c'est presque son frangin, quoi. Quand je vois le rapport d'un Emmanuel Hubert avec Jackie, les anciens comme ça, il y a quelque chose de fraternel.
Ah ouais, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre maintenant. Nous, c'est complètement différent. Moi, j'ai le souvenir, mais j'ai des souvenirs quand j'étais bébé. Ils étaient tous dans le jacuzzi, tous ensemble. Et puis moi, j'étais au milieu d'eux, au milieu d'un jacuzzi, avec tous les coureurs qui étaient là. Ils parlaient, ils étaient là en train de raconter des conneries. Je m'en souviens pas parce que j'ai le projet, mais heureusement pour moi.
Tu rigolais, mais tu comprenais pas.
C'est ça. Mais ils étaient là et c'était très fraternel. On est retourné à Maurice chez Jackie encore cet hiver. Et c'est clair qu'ils se sont retrouvés ensemble. Et puis voilà, ça racontait les histoires d'il y a quelques années. Et c'est comme si c'était jamais quitté.
Ouais, et tu as perdu à la pétanque cette fois. Enfin bon. Non, j'ai gagné. T'as gagné encore. T'as encore gagné. fait deux fois.
Mais non, j'avais perdu.
Ah oui, on s'est fait taper ensemble contre Jackie, c'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié. Tiens, en parlant des bons copains, des gars un peu fraternels, il y a un message d'Antoine Duchesne sur ton portable. Vous avez un message, monsieur Valentin Madoise.
Salut mon Val. On voulait savoir c'était lequel de tes surnoms préférés. Le 4x4 breton, le tracteur, tête de noisette ou grosse tête?
Salut ma grosse tête.
Bon ben lui, je pense que c'est ça son préféré. Allez, salut Val.
Et il y avait du Thibaut Pinot pour finir. Grosse tête pour Thibaut, tête de noisette, le 4x4 breton.
De toute façon, c'est ces personnes-là qui m'ont donné tous ces surnoms en même temps, parce qu'il y a plein de... Il y a quelques petites références à chaque fois sur chacune de ces surnoms. Après, ouais, c'est compliqué de répondre.
Il y a des trucs qu'on ne peut pas dire.
Non, si, mais c'est que des voilà, grosses têtes, parce que je suis le seul de l'équipe en casque L. Et puis, du coup, ils se foutent de moi parce qu'ils disent ah, « c'est quelle taille ton casque ?» Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir écrit mon nom dessus, comme je suis le seul en taille L, qui se moque de moi pour l'altitude, donc ils mettent tout le temps la grosse tête.
Après, voilà, c'est un chambreur, Thibaut. Je me rappelle d'une interview, il te l'a peut-être dit d'ailleurs sur le tour, il chambrait avec Tony Galopin, et il dit à Tony « toi, tu as fait 11 ». C'est bien top 11, ça se dit ça top 11. Il t'a pas fait le coup du top 11 sur ton dernier Tour de France ?
Non, il l'a pas fait. Il a pensé très fort, je pense.
C'est un meneur, Thibaut aussi, par le côté déconnade. C'est peut-être en cyclisme dans notre temps, Thibaut. Il aurait peut-être été bien à l'époque des Durand, des Madouas, mais le père Madouas.
Ah bah ça c'est sûr, je pense qu'il aurait été top dans cette. Dans cette époque-là, après, il a fait plusieurs générations et on arrive toujours à passer des bons temps comme ça avec des super personnes. Ça ne change rien à la façon de faire maintenant, mais c'est clair que le vélo, il a changé. Et ouais, c'est quelqu'un qui aime déconner, qui aime rigoler avec Antoine, c'est encore pire. On va le voir bientôt sur Netflix, mais c'est des personnes qui sont très, très, très importantes dans une équipe et dans un collectif.
Tu avais un contrat avec Netflix, tu l'as placé naturellement.
Ah, je l'ai passé, pardon, excusez-moi.
Non, mais il n'y a pas de problème, on va tous le regarder. Il y a plein de choses aussi sur l'appli Eurosport, notamment, je te conseille les Reines du Tour, tiens, puisque je sais que... Ouais. Tu l'as regardé? Tu l'as pas regardé encore?
J'ai regardé un petit peu une partie, mais il faut que je regarde...
Il y a une bretonne que j'adore, Marie Lenette, qui est juste sublime dans sa façon de voir le vélo. Elle aussi une très très belle personne. Le Tour de France, l'année dernière, il y a cette 11e place, il y a le travail pour David, il y a du travail pour Thibaut, et puis il y a cette échappée à Foix, la 2e place, Hugo Hull, il était intouchable. Tu es un attaquant, tu as ça dans ton ADN, parce qu'on a parlé des courses d'un jour, mais j'imagine que voilà, il y a des envies de victoire sur le Tour, comme tous les coureurs professionnels. Est-ce que tu vas faire le Tour cette année? Est-ce que tu connais ton programme? Est-ce qu'il y aura un Giro, une Vuelta par exemple aussi en fin d'année?
Non, l'objectif c'est de se préparer à fond pour le Tour et viser une victoire d'étape et aider David à faire le meilleur classement possible. Je pense qu'on a pu le voir l'année dernière, tout était possible à faire. Après, l'objectif ouais, c'est de partir sur un Dauphiné comme l'année dernière, la même prépa qui a plutôt bien fonctionné. Le championnat de France et le Tour, et ensuite pour la suite de la saison, on fera le bilan pendant le Tour ou à la fin du Tour. C'est tellement difficile qu'il faut se projeter d'abord sur un objectif par un objectif et on verra la suite, c'est une Vuelta ou pas. Mais
tu as envie de faire la Vuelta, toi?
Oui, j'ai envie une fois de doubler. Et après, de là, faire tout de suite la Vuelta, je pense pas forcément. Je pense qu'il y a des belles classiques. Je vais gagner des courses, je vais gagner des classiques World Tour. Et voilà, il y a des
allez, plutôt au Canada qu'à la Vuelta.
Ouais, Ploué, le Canada, pour l'instant, c'est des courses que j'ai pas pu faire l'année dernière avec les championnats du monde. Donc, que j'espère pouvoir viser et essayer d'en remporter une cette année. Et après, on tentera des choses.
On a plein de questions. Alors, je passe les messages. Je rêve de voir David en jeune au moins une fois. Ça, c'est Armand. Il y a Sébastien qui te demande, est-ce que tu vas progresser cet hiver en watt? Je sais que oui, parce que j'ai entendu que tu avais... Voilà, ouais, les jeunes, ils regardent les watts. Et puis, de toute façon, tout le monde regarde les watts aujourd'hui, les entraîneurs aussi. Et c'était plutôt pas mal, les retours de cet hiver, non?
Non, cet hiver était bon, ça c'est sûr. J'ai bien progressé. J'ai battu peut-être ouais, quelques records, mais c'est pas forcément ça que je me mets en tête. C'est, ouais, je sens que j'ai progressé, mais c'est surtout l'enchaînement. Les records, c'est beau, mais les records, il faut les faire au bout de 4 heures, 5 heures, 6 heures de course. Et ces records-là qui sont importants.
Est-ce que tu seras au départ du Trobro? Est-ce que tu rêves de gagner le petit cochon des Bretons?
Moi, c'est clair que c'est un rêve de pouvoir participer au Trobro. C'est la course de chez moi, c'est vraiment à domicile, c'est mes routes d'entraînement, je passe tous les jours. Donc, c'est une course que je regarde depuis que je suis bébé, que je suis enfant, c'est presque la course que j'ai vue le plus. Donc, moi, c'est un rêve de pouvoir y participer cette année. Je pense que ça va être sûrement compliqué un peu. Après, voilà, c'est à réfléchir, il faut que ça tombe dans des bonnes prépas et faut que ça tombe aux bonnes dates pour moi. Faut pas négliger l'objectif numéro un, ça reste le tour et après, on se fixera les courses par la suite.
Paul, tu es en fin de contrat en 2023. Imagines-tu changer d'équipe pour aller sur une équipe plus orientée sur les classiques? Même s'il me semble qu'il y a quand même un sacré groupe classique à la groupe AMF-FDJ. Puis il y a des petits là qui arrivent de la Conti, des morts de faim, qui tous aussi sont des foot classiques.
Non, ça c'est sûr, je pense que les classiques au sein de l'équipe groupe AMF-FDJ, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. On marque
Marque
il est
déjà.
la classification. Donc là-dessus, ça c'est sûr. Après, de là, pour le changement d'équipe, bah, on verra bien cette année ma décision. Pour l'instant, il n'y a rien qui est pris et je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas ce que je vais faire. Et ça sera au fur et à mesure de l'année, ça c'est
Ouais,
sûr.
carpe diem, au jour le jour, hein, en fonction du temps qu'il fait, on l'a bien compris.
Pas comme ça.
Une personne que tu connais bien, ta moitié, qui je sais est très importante, avait un petit message pour toi, c'est sur ton
Très bien.
portable.
Alors moi j'avais une petite question Val. Je voulais savoir, comme tu es quelqu'un d'hyper bien organisé, toujours serein sur le quai de la gare, toujours 10 minutes en avance à tous tes rendez-vous, je voulais savoir si demain j'avais un train ou un avion à 6h du matin, vers quelle heure fallait que je me réveille? Allez, bisous!
Pas très à l'heure, apparemment, Valentin Madouas, ou c'est l'inverse?
Je suis jamais en avance et je suis rarement en retard. Pile à l'heure.
Rendez-vous moins une.
Ouais, bah, si elle a son train à 6h ou son avion,
Donc on part de Guy Pavas?
ouais, moi souvent, pour l'avion, je sais que j'habite à 5 minutes pile de l'aéroport. C'est chronométré 4 km, 5 minutes. Donc, donc, sachant que les valises, ça se ferme 35 minutes avant, il faut que j'aille 40 minutes avant. Donc, je
Tu
mets mon
pars
réveil
moins quart. Non, combien?
50 minutes avant
Ah ouais,
le vol.
mais tu te laves pas. Tu
Ah
sautes.
ben, je me douche la veille, et ben non, je suis trop sale. Non. Je prépare toutes mes affaires, je me dis j'ai 5 minutes et je pars direct.
Est-ce que Valentin peut être un jour leader au championnat du monde, type puncher? Parce que tu as aussi un peu le profil d'un Alaphilippe. C'est Victor qui pose la question.
Bah, moi j'espère, je suis nul pour ça, mais j'espère aussi participer aux JO, c'est quelque chose qui va être important. Championnat du monde, JO, c'est des choses qui sont importantes pour moi et j'espère qu'ils vont rester gravées et j'espère que le parcours sera aussi à ma convenance.
Meilleur grimpeur sur Paris-Nice, ça c'était l'année dernière, question de Clem. Chasser ce classement sur le tour, c'est un objectif qui te motiverait dans l'avenir? Compliqué quand même aller chercher, donc ça veut dire faire les échappées, rester devant, ramener David en haut, puis ensuite, bah, c'est comment on fait là?
Là, faut pas trop en demander pour ce tour cette année, ça c'est sûr. Non, non, l'objectif cette année ne sera pas le maillot à poids, ce sera une victoire d'étape. Après, si un jour j'ai l'opportunité de pouvoir faire un maillot de meilleur grimpeur, je le saisirai. Je pense que j'en ai les capacités, il faut que je cours juste et que je puisse vraiment être au top de ma forme. Mais actuellement, l'objectif, c'est le classement général et une victoire d'étape. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est quelque chose qui me fait rêver forcément.
Des victoires, il y en a eu pas mal l'année dernière, hein, au Luxembourg, c'était pas début de saison, mais voilà, on sent que maintenant, tu es dans les bonnes années. Tu as commencé tard, finalement, chez les pros, tu as parlé de ce titre champion amateur, parce que tu faisais des études, ingénieur, ça c'est de côté. C'est un point en moins, quand tu fais du vélo aujourd'hui, de savoir que derrière, tu sais où tu vas.
À moi, c'est hyper important et je pense que ça va être quelque chose de positif sur ma carrière. Peut-être que je ne suis pas arrivé à maturité aussi jeune que ce qu'on peut voir maintenant avec les coureurs de maintenant parce que ce n'était pas forcément ce vélo-là à mon époque et que je ne voulais pas le faire surtout. Pour moi, les études, c'est important parce que ça me permet d'avoir quelque chose derrière que j'ai pas besoin de réfléchir surtout à mon avenir pendant ma carrière. À la fin de ma carrière, là, je suis concentré que sur une chose, c'est faire du vélo et faire que du vélo. Et à la fin de ma carrière, bah, j'aurai le temps de voir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ferai surtout. si c'est en rapport avec mes études ou non. Mais c'est surtout maintenant, je me dis que là, je suis concentré à faire que du vélo et je pense qu'au vélo, je pense pas à mince, si j'ai un problème, qu'est-ce que je vais me retrouver à faire, ou mince, si j'ai plus de contrat, qu'est-ce que je fais. Là, je pense juste à une chose, c'est rouler. Et pour moi, c'est vraiment un gain juste énorme et je pense que c'est ce qui va me faire tenir au top niveau, peut-être 2, 3, 4 années de plus que beaucoup de quoi.
Un petit message comme ça pour terminer, c'est Greg ou J-Reg, je ne sais pas si tu connais, je le croise régulièrement à l'entraînement quand il est dans le coin. Je suis chauffeur-livreur à côté de chez Valentin. Ce mec, c'est un super coureur, il mérite énormément une belle victoire professionnelle. Bon, je crois qu'on peut se quitter là-dessus. Il ira tout à la ronde de Occitanie, on ne va pas aller parce qu'on a déjà dépassé de 40, ouais, 47 minutes. Ça fait déjà 10 minutes de débord, mais ce n'est pas grave. Le programme de la semaine. Ouais, le programme de la semaine sur Eurosport, si tu as des après-midi à tuer, tu pourras regarder dès demain la suite du Tour du Pays Basque qui a commencé aujourd'hui avec Louis Pierre, avec David Moncoutier. Tu peux regarder le Grand Prix de l'Escaut, ça c'est le genre de course que tu aimes bien, ça sera mercredi, samedi Paris-Roubaix Dames avec Jackie Durand, avec Manu Merlot, et puis dimanche, on retrouve Jackie, on retrouve Steve Chenel, on retrouve également Roxane Fournier pour Paris-Roubaix, Roi de la Pédale après, Bistro Vélo. Lundi prochain, ça sera Adrie Petit qui est blessé, il devait faire Paris-Roubaix, mais déjà une deuxième blessure pour le Bison d'Arras. Un grand merci Valentin qui était malade, qui a assuré son rendez-vous à 18h. Moi hier soir, j'ai dit, ah, la galère, comment on va faire? Je t'ai pas envoyé de texto parce que je l'ouvre une porte, mais j'avais confiance. Merci beaucoup Valentin Mado.
C'est normal.
À très vite.